Dans le cadre de cette journée climat du 6 octobre initiée par le conseil départemental, il y a une exposition qui a été montée par l'association Tournée du climat et de la biodiversité. Et on va essayer de faire une petite visite radiophonique de cette exposition avec Claude Badevant qui est enseignant à Polytechnique et spécialisé en météorologie, si j'ai bien compris.
Tout à fait, oui, oui. Moi, je suis mathématicien, mais j'ai fait toute ma carrière dans la météorologie et le climat. Donc, dans cette exposition, on essaie de montrer à un public large, en particulier beaucoup de scolaires, quels sont les enjeux du changement climatique. Où est-ce qu'on constate du changement climatique et quels sont les enjeux pour la société, pour la biodiversité.
Et pour tout ça, vous remontez aux origines de la Terre et c'est vraiment très très intéressant de comprendre tout ça.
Bien, on essaie d'expliquer que comprendre le climat, c'est de comprendre une interaction très forte entre plusieurs milieux qui sont d'une part l'atmosphère, qui est une petite couche autour de la Terre d'une cinquantaine de kilomètres d'épaisseur, avec la biosphère, c'est-à-dire tout le monde vivant, aussi bien nous que les animaux, que les plantes, que les végétaux, et puis l'hydrosphère, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'eau, les océans, les glaces, l'eau souterraine, les glaces de mer et les glaces de terre. Donc comprendre le climat, c'est de comprendre les interactions, les transferts d'énergie, d'humidité, de quantité de mouvement entre toutes ces parties de la planète.
Alors j'imagine qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup d'études pour arriver à comprendre tout ça, mais est-ce que vous pouvez vulgariser en quelques phrases qu'on ne peut pas penser indépendamment la Terre, des océans, de l'atmosphère ?
Ah bien non, parce que toutes ces, que ce soit la biosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, tout ça, ça interagit sans arrêt. Alors le fondamental, c'est qu'on reçoit énormément d'énergie du Soleil. Chaque année, on reçoit des milliers de fois les quantités d'énergie qu'on consomme sur la Terre du Soleil. Une grande partie de cette énergie est réfléchie par l'atmosphère, par les nuages, mais plus de 30% est absorbée par la surface, le sol et les océans. Et ça chauffe le sol, ça chauffe l'océan, et comme ça nous chauffe nous-mêmes. Et quand on est chaud, on réémet de l'énergie. On réémet de l'énergie, pas sous forme de lumière, bien sûr, mais sous forme de rayonnement infrarouge. Donc, la Terre réémet une partie de l'énergie qu'elle a reçue du Soleil. Et si on voulait avoir un équilibre parfait, il faut qu'il y ait autant d'énergie qui arrive que d'énergie qui s'en va vers l'espace. Seulement, il y a dans l'atmosphère des gaz qui sont sensibles à ces rayonnements infrarouges émis par la planète et qui le rediffusent dans toutes les directions et en particulier vers le sol. Le principal gaz, c'est la vapeur d'eau. S'il n'y avait pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère, la température moyenne de la planète serait moins 18 degrés. Donc grâce à la vapeur d'eau, on peut vivre sur Terre. Mais il y en a d'autres qui sont naturellement là, le gaz carbonique, le méthane et aussi d'autres gaz. Et ces gaz participent à ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est-à-dire ce renvoi de l'énergie vers le sol. Mais malheureusement, depuis la fin du 19e siècle, on accumule de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On en accumule tous les ans pas beaucoup plus, hein, disons l'ordre du 1% en plus. Mais quand c'est 1% de plus tous les ans, eh bien, au bout d'un siècle, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et c'est ça qui explique que l'équilibre que la vapeur d'eau avait créé avec l'énergie du soleil, ben cet équilibre il a été modifié et modifié vers une température moyenne plus élevée.
Parce que donc ces gaz à effet de serre piègent en fait le rayonnement, c'est ça ?
Ils piègent le rayonnement infrarouge. De la même façon que quand vous avez dans la serre du jardinier, le soleil il traverse la vitre qui est au-dessus de la serre du jardinier, sans la chauffer particulièrement, il vient chauffer le sol. Le sol renvoie de la chaleur et la vitre, elle capte cette chaleur. Elle capte cette chaleur et donc dans la serre du jardinier, la température moyenne est plus élevée qu'à l'extérieur. Et bien là, c'est exactement la même chose. Les gaz, l'eau, le gaz carbonique, le méthane piège une partie du rayonnement infrarouge qui devait partir vers l'espace.
Et ça, on est capable, avec des études, de voir effectivement cette augmentation des gaz à effet de serre.
Il y a deux choses. On est capable de le mesurer. On a des enregistrements qui mettent clairement l'augmentation considérable des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et on a des enregistrements qui nous montrent aussi que la température a cru de plus de 1 degré depuis le 19e siècle. Et c'est une croissance qui est considérable. Parce que il y a eu des époques de glaciation. Tout le monde sait que le climat a varié, il y a eu des époques de glaciation.
Les périodes c'est un des arguments des climato-sceptiques. Hein.
Oui, mais les périodes de glaciation, c'était une variation de la température moyenne sur la planète de 4 à 5 degrés. Donc ce n'est pas grand-chose, mais qui se produisait sur des dizaines de milliers d'années. Alors que là, on s'aperçoit d'une augmentation de la température sur une centaine, 150 ans. Ce qui est un temps beaucoup plus rapide. Alors, pour étudier ça, les scientifiques sont capables de construire ce qu'on appelle des modèles de climat, c'est-à-dire des programmes informatiques considérables qui tiennent compte de la chimie, de la biologie, de la physique, de la mécanique des fluides, qui tiennent compte de l'atmosphère, de l'océan, de la surface de la planète sur plusieurs mètres, et qui sont capables d'essayer de reproduire les climats passés, et aussi d'essayer de prévoir les climats futurs. Il y a une vingtaine de centres dans le monde qui sont capables de le faire, deux en France, un à Météo France et un à Paris, à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et toutes les études faites par ces 20 ou 25 différents modèles montrent clairement que c'est l'activité de l'homme qui est responsable d'une augmentation moyenne de la température. Et tous ces modèles montrent aussi que si on ne fait rien, si on continue comme avant à extraire des énergies fossiles et augmenter les quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien la température ne pourra qu'augmenter et devrait en moyenne à la fin du siècle être de 4 à 5 degrés supérieure à la température actuelle. 4 à 5 degrés, ça veut dire que dans certains endroits, il y aura 10 degrés de plus. Hein.
C'est une moyenne, les 4 à 5 degrés.
C'est une moyenne. Ça sera particulièrement chaud dans l'hémisphère nord et dans la Sibérie. Donc, avec des effets qui sont considérables sur la végétation, sur la biodiversité, sur la capacité de vivre dans certains endroits. Il faut voir que cette énergie accumulée depuis le 19e siècle, elle est dans l'océan. 90% de cette énergie, elle est dans l'océan.
C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Parce que l'énergie accumulée, elle a servi à chauffer l'océan. L'augmentation de température de l'océan n'est pas considérable, de 1 degré à 1 degré et demi, mais c'est une énergie accumulée dans les couches profondes de l'océan, et c'est ça qui crée des perturbations, une évaporation plus forte, donc des tempêtes plus fortes, des précipitations plus fortes, et aussi une dilatation de l'océan. Donc le niveau de l'océan monte et ça va submerger beaucoup d'endroits autour du monde, un certain nombre d'îles et beaucoup de cités qui sont au bord de l'océan.
Donc c'est un peu une bombe à retardement dont les effets commencent déjà à se faire sentir.
C'est une bombe à retardement, vous avez parfaitement raison. C'est une énergie accumulée et qui ne se dissipera pas avant plusieurs décennies. Hein, donc même si on arrêtait complètement d'utiliser d'émettre des gaz à effet de serre actuellement, la température continuerait à augmenter pendant encore plusieurs années.
Alors peut-être qu'on va brûler les étapes de cette exposition qui est très intéressante. Mais par exemple, vous avez une carte avec l'effacement de certaines zones terrestres au profit des océans. Est-ce que peut-être on peut aller la voir ?
Voilà, ici, là, vous avez une carte qui montre la pénétration de l'eau de mer dans les nappes souterraines. Non seulement le niveau de l'océan augmente et va submerger certains endroits, vous avez sûrement entendu parler des côtes qui sont déjà usées, effondrées à cause des tempêtes. Mais en plus de cette élévation du niveau sur les côtes, les eaux salées vont petit à petit envahir des zones au bord de la mer et compliquer la végétation et les animaux qui vivent dans ces endroits-là.
Ça veut dire que pour l'instant, là où il y a de l'eau, qui est de l'eau potable, de l'eau de source et tout ça, finalement, ça va devenir de l'eau de mer.
Ça,
donc,
ça,
effectivement,
ça va devenir de l'eau salée, oui, oui. Voilà.
Donc les moutons de pré salée, par exemple, ça va se répandre.
Exactement.
Alors, on le dit parce qu'il faut bien sourire un petit peu, mais en fait, ça ne prête pas du tout à sourire, parce que ça veut dire que toutes nos sources vont devenir, et notamment je vois en Bretagne.
En Bretagne, en Cotentin, il va y avoir des endroits où les nappes phréatiques risquent d'être polluées par le sel. Voilà, alors ça a des impacts sur la végétation. Ici, on a des images qui montrent clairement que si on est dans un scénario à haut risque, c'est-à-dire où on continue à émettre des gaz à effet de serre, eh bien, les végétations vont considérablement changer. Les essences méditerranéennes vont petit à petit remonter vers le nord.
Alors on peut se dire que ce n'est pas très très grave qu'on change, qu'on ait moins de chênes et qu'on ait plus des essences méditerranéennes. Mais il y a des réelles conséquences après en chêne. Hein. C'est toujours ça en fait à chaque fois. Hein.
On a maintenant deux objectifs. Un objectif d'atténuation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour émettre moins de gaz à effet de serre? Et là il y a plein de pistes, mais il n'y en a pas une piste unique. Et un objectif d'adaptation, atténuation, adaptation. De toute façon, la température va augmenter. De toute façon, il va y avoir des effets dus au fait que l'océan sera plus chaud. Comment est-ce qu'on se prépare à subir ça? Il y a des îles qui vont disparaître. Il y a beaucoup de population mondiale qui est au bord de l'océan. Donc il y a des villes qui risquent d'être submergées ou partiellement submergées. Il faut se préparer à vivre ça. Il faut se préparer à vivre avec une température plus élevée. Des canicules, comment est-ce qu'on adapte la ville? Comment est-ce qu'on adapte notre urbanisme pour supporter ces modifications du climat qui peuvent être très importantes si la communauté internationale, mais aussi les individus, ne se préparent pas à atténuer le changement climatique?
Oui, parce que ça aura un impact aussi, vous qui êtes spécialiste en météorologie, sur effectivement tout ce qu'on appelle les catastrophes climatiques, les chocs, peut-être entre le chaud, le froid, qui seront intensifiés.
Tout à fait, comme je disais tout à l'heure, l'énergie qui est dans l'océan, elle va se transformer en des précipitations, en des sécheresses aussi, des phénomènes climatiques qu'on commence à voir d'ailleurs. Vous avez entendu parler des tempêtes, des ouragans qui balayent la côte sud des États-Unis actuellement. Ce genre de phénomène, il y a beaucoup de chances qu'il se multiplie dans l'avenir.
Là, pour l'instant, il y a déjà beaucoup plus d'ouragans, de typhons, de catastrophes comme ça que par le passé. Ça, on est capable, vous êtes capable, avec les études de climat ancien, vous êtes capable de le préciser, ça.
Je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup plus, mais ils sont plus intenses, ils sont plus forts. Ils sont plus forts. On sait que la Méditerranée, par exemple, cet été était très chaude. C'est ça qui a créé des précipitations très violentes sur les Cévennes, sur les basses Alpes, avec des quantités d'eau évaporées, transportées par les vents, et qui viennent se fracasser sur les versants des montagnes.
Donc atténuation
et adaptation.
C'est
les deux mots.
Alors,
le problème, c'est de savoir qui sont les coupables. Et ça,
dans l'idée de désigner et de dire honte, c'est juste pour permettre d'aller d'atténuer.
Et de savoir ce qu'il faut faire, oui. Parce qu'il faut à la fois agir au niveau international, national, local et individuel. Sur carte, on voit que la Chine est le premier émetteur de gaz carbonique. Chaque année, la Chine émet 12 000 mégatonnes de CO2 chaque année. Alors que les États-Unis n'en font que la moitié, que 6 000 mégatonnes. Mais si je ramène ça à la population, un Chinois va émettre en moyenne 8 tonnes de CO2, alors qu'un Américain en émettra près de 15 tonnes. Donc, un niveau de vie, une façon de vivre complètement différente. Donc, la responsabilité est partagée. Il ne faut pas regarder uniquement celui qui en émet le plus. Il faut aussi savoir, par habitant, combien on en émet. Et la chose est encore plus compliquée quand on tient compte de ce que nous importons de Chine ou d'Inde.
Oui, c'est ça, parce que finalement, on a une grande responsabilité dans ce que produit la Chine, hein, puisque nous, on l'achète, ce qu'elle produit.
Exactement, exactement. Donc, si on regarde le bilan carbone d'un petit Français, en tenant compte de ce qu'on importe d'Extrême-Orient ou même d'Amérique du Sud, le bilan carbone, il monte à près de 9 tonnes de CO2, l'équivalent d'un Chinois. Un Français et un Chinois, ils ont à peu près le même poids.
Ça fait réfléchir, effectivement, puisqu'on a vite fait d'accuser les industries, notamment de Chine. Et, donc,
Et puis d'un pays à l'autre, la solution n'est pas la même. En France, le premier secteur émetteur, c'est la circulation des voitures, des camions. Si vous regardez le Brésil, le premier émetteur, et de loin, c'est l'agriculture. C'est la déforestation, l'agriculture. Mais c'est aussi les champs de soja gigantesques pour nourrir nos cochons. Donc, la chose est compliquée. Si on regarde l'image historique, au début, c'était l'Angleterre qui a commencé par faire du charbon. Ensuite, l'Europe s'y est mise. Ensuite, les États-Unis, l'Amérique a émis des gaz à effet de serre à partir du début du XXe siècle. Et puis, pendant le XXe siècle, toute l'Asie s'y est mise aussi. Donc, c'est l'hémisphère nord qui est responsable de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, il dure très très longtemps, il peut durer des siècles. Il y en a une partie qui est absorbée par la végétation, une partie qui est absorbée par l'océan, mais 30% du CO2 qu'on émet cette année, il va rester longtemps. Mais si on regarde l'Afrique, elle émet pratiquement pas de CO2, très peu. Pourtant, ils ont une population considérable qui, à la fin du siècle, sera équivalente à la population actuelle de la Chine. Et l'Afrique a beaucoup de ressources, de pétrole, de gaz, de charbon. Est-ce qu'on a le droit de lui interdire de se développer alors que nous sommes responsables de l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère? Donc tout ça, ça donne des négociations internationales super compliquées. Super compliquées parce qu'il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution, il y a des tas de domaines où il faut agir.
Et effectivement, quand vous disiez Claude Badevant, c'est le coupable, ben en fait, il n'y a pas un coupable. Hein.
Nous sommes tous coupables, et à titre individuel aussi. Hein, quand on regarde ce qu'on mange, il y a des aliments comme les huiles, les légumineuses, qui ne sont pas productrices de CO2, ou très peu.
Plus vertueuses.
Plus vertueuses, alors que la viande rouge, elle est très bonne, j'en doute pas, mais les ruminants, ils ruminent. Donc, en ruminant, ils émettent beaucoup de méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc, l'impact d'un beefsteak est beaucoup plus important que l'impact d'une boîte de pois chiches, exactement. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas désespérer, hein, il faut rester optimiste, mais il faut agir à la fois au niveau individuel, personnel, au niveau collectif de la municipalité, de la région, du département, de la nation, et au niveau international, mais il ne faut pas laisser uniquement les autres agir. Il faut que tout le monde agisse.
Et justement, Claude Badevant, quand vous expliquez, et c'est dommage que les auditeurs ne voient pas, parce que c'est très, très parlant, ce panneau qui a été réalisé sur les émissions, et puis d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre, on peut avoir l'impression, être dépassé et se dire, de toute façon, moi, à mon niveau, comment est-ce que je peux empêcher la Chine de produire autant? Et même si c'est pour nous, comment je peux empêcher les États-Unis, ou comment je peux aider les États-Unis à être plus vertueux dans leur production? On a vite l'impression d'être dépassé et que finalement on peut devenir un peu fataliste et résigné face à ces changements climatiques.
Ah, c'est le danger de devenir résigné. Mais on peut toujours agir, hein, dans des associations, dans les élections. Hein. C'est nos hommes politiques aussi qui peuvent agir. Hein. Il faut les inciter à agir. Parce que ce n'est pas toujours commode de faire des efforts pour émettre moins. C'est pas toujours commode de décider de plus acheter
de Nutella avec les
de l'autre bout du monde. Hein. Mais il faut être convaincu qu'on a une responsabilité. Et à titre individuel, peut-être que c'est une démarche microscopique, mais à ajouter des quantités de démarches microscopiques, ça peut avoir un effet.
Hein. C'est la fameuse goutte d'eau du colibri de Pierre Rabhi. Hein.
Voilà, où je vous rappelle l'histoire de la mer d'Aral. Hein.
On a... Rappelez-la-nous.
La mer d'Aral, si vous allez la voir, il n'y a plus d'eau dedans. Hein, il n'y a plus d'eau dedans parce que, du temps de l'URSS, on a détourné cette eau pour arroser des champs de coton. Donc quand on s'est habillé en coton en Europe, on a participé au dessèchement de la mer d'Aral. C'est une catastrophe écologique pour laquelle on n'arrivera pas à revenir dessus. Mais on a une part de responsabilité. Elle est minime peut-être, mais elle existe. C'est tout le problème du commerce international. Comment est-ce qu'on régule le commerce international ?
Et finalement, là, aujourd'hui, une fois qu'on prend conscience de tout ça, on peut favoriser le recyclage des vêtements, les vêtements faits à base de vêtements recyclés, les baskets aussi, ça se fait de plus en plus. Hein, il y a des initiatives dans les industries vertes.
Oui, mais là, il y a plein de panneaux sur... Donc les deux objectifs, atténuation et adaptation. Dans l'atténuation, il y a plein de choses, et dans l'adaptation, qui peuvent se faire au niveau local. Par exemple, la végétalisation des villes, pour éviter, ça joue à la fois sur l'atténuation et sur l'adaptation. Adaptation parce que végétaliser, ça fera moins d'îlots de chaleur, et atténuation parce que plus on multiplie des espaces verts, plus on a des espaces qui captent le carbone. Il y a aussi un autre domaine où on peut agir, c'est sur l'urbanisme et la construction. Savez-vous que pour produire une tonne de ciment, il faut émettre une tonne de CO2. On prend du carbonate de calcium, du CaCO3, on le brûle, ça consomme de l'énergie déjà, et pour obtenir de la chaux, et pour une tonne de ciment, il faudra émettre une tonne de CO2. Donc moins on fait de ciment, moins on fait de béton, moins on émet de CO2. Les gaz à effet de serre, c'est pas uniquement le pétrole, le charbon et le gaz. Hein. C'est aussi fabriquer la sidérurgie. La sidérurgie, elle émet aussi beaucoup de CO2. Il y a plein de process industriels qui émettent du CO2, et il faut réfléchir à essayer d'atténuer ces émissions.
Et c'est possible, puisque on va juste terminer là-dessus, parce qu'il nous reste 30 secondes. Claude Badevant, la France a réussi à réduire.
Réussi à réduire son impact CO2. Elle a encore des objectifs plus ambitieux, mais ça demande une participation de tous, aussi bien des collectivités locales, des individus, et du gouvernement, mais il ne faut pas croire que le gouvernement va tout faire tout seul.
Ouais, mais en tout cas, ça veut dire que c'est possible. On ne va pas du tout encore assez vite, et il faut qu'on renforce nos efforts. Mais c'est quand même un signe assez positif et plutôt encourageant de se dire on a réussi à grignoter un petit peu, à inverser la tendance. Et ça, c'est assez universel, je crois.
Mais je crois que c'est très encourageant, et il faut pousser, il faut encourager encore tous nos concitoyens à agir dans ce sens.
Merci beaucoup Claude Badevant, en tout cas, de cette visite radiophonique, de cette exposition très très intéressante qui a été organisée par donc l'association Tournée du climat et de la biodiversité.
Donc c'est une association qui était issue de Météo et Climat. Il y a plein de gens issus de Météo France qui ont participé à ça, mais beaucoup de scientifiques dans tous les domaines.
Voilà, scientifiques dont vous êtes. Et puis on peut retrouver sans doute sur Internet des éléments complémentaires.
Il y a une exposition virtuelle sur Internet qui décrit exactement tous ces panneaux. Oui, tous ces panneaux se retrouvent sur Internet. Tapez Tournée de la biodiversité, du climat et de la biodiversité sur Internet.
Merci infiniment, Claude Badevant.